VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 mars 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Mali, 29 morts au moins dans des affrontements entre des chasseurs d'ozo et des peuls.
Au Burkina Faso, panique à Ouagadougou, la raison, un exercice militaire non annoncé dans la capitale.
À Londres, au moins 4 morts et 20 blessés graves à la suite d'une attaque terroriste hier dans la capitale britannique.
La coalition internationale anti-djihadiste a promis hier d'éradiquer la menace planétaire du groupe État islamique et de son chef Abou Bakr al-Baghdadi.
Vote crucial aujourd'hui au Congrès américain pour abroger et remplacer l'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, des affrontements entre des chasseurs d'ozo et des peuls ont fait, bilan provisoire, 29 morts et des dizaines de blessés. Ces affrontements ont eu lieu à Balikoro, dans le centre de Niono, région de Ségou, nous signale notre correspondant Kassim Traoré.
Après le cercle de Massina, Niono vient de tomber dans les conflits intercommunautaires avec un affrontement sanglant entre les chasseurs appelés ici d'ozo en Bamana et les peuls djihadistes. À la veille des affrontements de ce mercredi 22 mars, 3 personnes de la communauté peul ont été tuées par des chasseurs. C'est pour répondre à cette représailles que les peuls ont planifié leur riposte. Et c'est dans le cercle de Niono, région de Ségou, plus précisément dans le secteur de Balikoro, ex-arrondissement de Sokolo, que les Dozo et les Pelos se sont tués. Le bilan côté chasseur est de 9 morts, 13 blessés, alors que les Pelos, vingtaine de morts avec 10 blessés. Certains blessés ont été évacués sur l'hôpital de Niono. Il a fallu encore l'intervention de l'armée malienne venue de Djabali pour stopper le carnage. Selon certains habitants de la zone, ce sont des terroristes qui agissent et font croire que ce sont des Pelos, car les permanents et les Pelos ont toujours cohabité dans la parfaite harmonie. Bamako, Kassi Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, le projet de révision constitutionnelle approuvé par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat sera soumis à référendum le plus rapidement possible. C'est ce qu'a annoncé hier le président Mohamed Ould Abdelaziz. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Ce projet de modification de la constitution actuelle, en vigueur depuis 1991, prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Il a été adopté le 9 mars par les députés, mais 33 des 56 sénateurs ont voté contre le texte, marquant son rejet le 18 mars. Pour être validé, le projet devait être adopté par chacune des deux chambres du Parlement, à la majorité des deux tiers, et ensuite être soumis à un congrès parlementaire. La coalition présidentielle est largement majoritaire au Parlement. Par ce rejet, nous sommes arrivés à une situation de blocage. Or, nous avons une porte de sortie. Aller en référendum conformément à l'article 38 de la Constitution, a déclaré le président Ould Abdelaziz lors d'une conférence de presse tard mercredi soir. Outre la suppression du Sénat, que devront remplacer des conseils régionaux, et le changement du drapeau, le projet de révision constitutionnelle prévoit aussi la suppression de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Ces amendements sont dénoncés depuis plusieurs mois par une quinzaine de partis de l'opposition radicale formant le Forum national pour l'unité et la démocratie. Le 11 mars, le Forum avait appelé les sénateurs à refuser de signer leur propre arrêt de mort.
Au Burkina Faso, un exercice militaire effectué hier dans le centre de Ouagadougou a semé la panique. Les habitants ont en effet cru à une nouvelle attaque djihadiste un peu plus d'un an après l'attentat meurtrier de janvier 2016. Des détails avec Arzuma Compaoré.
C'est aux alentours du mess des officiers qu'un impressionnant déploiement de plusieurs personnes en treillis, suivi de coups de feu, a provoqué la panique au sein de la population. Mais l'interruption de la circulation, les véhicules blindés faisaient partie d'une manœuvre militaire grandeur nature, effectuée par des éléments de la gendarmerie nationale. D'ailleurs, ces exercices en milieu urbain se poursuivront les prochains jours. Pour les habitants, personne n'a été prévenu au préalable, ce qui a provoqué la peur dès les premiers coups de feu. La gendarmerie s'est justifiée en avançant des raisons de sécurité. En janvier 2016, un commando djihadiste avait tué 30 personnes en ouvrant le feu sur des clients de bars et d'hôtels au cœur de la capitale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une attaque qualifiée de terroriste a fait au moins 4 morts, dont un policier et 20 blessés graves hier à Londres, la capitale britannique. Le point avec Dilly Dico.
Hier, en début d'après-midi, un homme a lancé sa voiture sur la foule devant le Parlement à Westminster avant de poignarder un policier et d'être abattu par la police. Selon plusieurs témoins, l'assaillant présumé a d'abord renversé plusieurs piétons sur le pont menant au Parlement et à Big Ben. Un médecin de l'hôpital Saint Thomas a fait savoir qu'une femme est décédée et que certaines personnes blessées souffrent de blessures très graves. L'attaque survient après le discours de la première ministre Theresa May devant les députés. La séance a été suspendue et les parlementaires ont été évacués plus tard vers les locaux de Scotland Yard sous escorte de policiers lourdement armés. Scotland Yard a affirmé que jusqu'à preuve du contraire, il s'agit d'un acte terroriste. Le président américain Donald Trump, son homologue français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel ont apporté leur soutien à leurs amis britanniques. L'attaque est survenue le jour même où la Belgique commémorait les attentats qui avaient fait 32 morts à Bruxelles il y a un an.
Ici à Washington, la coalition internationale anti-djihadiste, pilotée par les États-Unis, a promis mercredi d'éradiquer la menace planétaire du groupe État islamique et de son chef, Abu Bakr al-Baghdadi. C'était lors d'une réunion assombrie par l'attentat de Londres et des raids aériens qui, en 48 heures, ont tué plus de 40 civils près de Raqqa, capitale de facto des djihadistes en Syrie. Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, a dénoncé une force mondiale du mal et a promis la mort prochaine d'Abu Bakr al-Baghdadi, de la même manière que le fondateur d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden, avait été tué en mai 2011.
Les services de renseignement américains pourraient avoir capté des communications privées entre le président Donald Trump et des leaders étrangers pendant une surveillance légale, qualifiée de routine, d'officiels étrangers. C'est ce qu'a révélé le président républicain de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants. Précision de Jean-Roger Bion.
Le député David Nunes a dit à la presse devant la Maison-Blanche qu'une bonne partie de ses communications émanait de membres de l'équipe de transition de M. Trump entre l'élection de novembre et son investiture en janvier dernier. Mais des communications entre M. Trump lui-même et des officiels et d'éventuels candidats de sa future administration pourraient avoir fait partie de ces appels interceptés. Selon M. Nunes, ces informations ont été par la suite largement disséminées au sein de la communauté du renseignement et les identités de membres de l'équipe de Donald Trump dévoilées de manière inappropriée. Le président Trump a lui-même accusé son prédécesseur Barack Obama d'avoir placé sur écoute son QG de Trump Tower à New York. Allégation démentie par les directeurs du FBI et de la NSA lundi. Pour David Nunes, ceci n'a rien à voir avec l'enquête sur une éventuelle collusion entre des membres de la campagne de M. Trump et la Russie, accusés d'ingérence dans la présidentielle de novembre 2016. Mais le principal membre démocrate de sa commission, Adam Schiff, a déploré le nuage épais que son collègue républicain fait désormais planer sur cette enquête. Il veut savoir pourquoi M. Nunes est allé informer M. Trump de ses découvertes avant les membres de sa propre commission du renseignement. Il ne peut pas, a ajouté le député Schiff, diriger une enquête indépendante tout en étant un champion de la Maison-Blanche. Il suggère la création d'une commission totalement indépendante à cause de ses doutes profonds sur l'impartialité de l'enquête actuelle.
Et toujours à Washington, vote crucial et emblématique aujourd'hui au Congrès pour abroger et remplacer l'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama. Son successeur Donald Trump n'est pas certain de l'emporter en raison de la rébellion d'une partie de la majorité républicaine, Claire Morin-Gibourg.
C'est l'une des promesses de campagne de Donald Trump qui doit être sa première grande réforme. Cependant, le texte qui doit abroger et remplacer l'Obamacare fait face à une résistance. L'aile droite du Parti républicain estime que la proposition de loi va coûter trop cher à l'État fédéral. Les modérés s'inquiètent de la hausse prévue du coût de l'assurance maladie pour certaines populations et de la perte de couverture pour 14 millions d'Américains dès 2018. La minorité démocrate est totalement opposée, ce qui force les républicains à limiter les défections à une vingtaine au sein de leur propre camp. Les frondeurs qui font le plus de bruit, des ultra-conservateurs de l'ex-Tea Party, trouvaient le plan trop avantageux et ont obtenu une nouvelle clause. Les bénéficiaires du Medicaid, la couverture maladie des plus pauvres, sont désormais obligés de travailler. Le marchandage continue et le résultat final du scrutin se jouera à quelques voix près. Paul Ryan, président de la Chambre, peut aussi décider de reporter le vote s'il n'est pas certain d'obtenir une majorité confortable.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
L'Ouganda affirme avoir demandé à la Chine un prêt de 500 millions de dollars pour aider à construire près de 600 km de route dans l'ouest du pays. Cette région est riche en pétrole après la découverte de réserves de brut estimées à 6,5 milliards de barils le long de la frontière avec la République démocratique du Congo. Cependant, le manque d'infrastructures et les désaccords entre le gouvernement ougandais et les compagnies pétrolières internationales sur les taxes continuent de retarder la production. Le gouvernement ivoirien a approuvé hier la vente de 30 des 40% de parts détenues par la SEDEMI dans la société des mines d'or d'Iti, à raison de 25% au groupe canadien Endeavour Mining et de 5% au groupe dirigé par la vedette du foot Didier Drogba. D'après le gouvernement, cette opération permettra à Endeavour, qui détient désormais 80% du capital, de réaliser son plan d'investissement qui inclut la construction d'une usine d'une capacité de production de 3 millions de tonnes d'or par an. L'audit de la dette souveraine du Mozambique sera achevé au cours des deux prochaines semaines et ses résultats publiés par le gouvernement. C'est ce qu'a indiqué hier à Reuters ABB Selassie, chef du département Afrique du Fonds monétaire international. La découverte de dettes internationales cachées équivalent à 2 milliards de dollars avait causé le gel de la collaboration entre le FMI et Maputo.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pino. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur depuis hier.
Oui, l'ancien international belge Marc Wilmots a donné sa première conférence de presse hier depuis Abidjan. Wilmots, dont c'est la première aventure africaine, aura pour mission de qualifier la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018 et la CAN 2019. On écoute le nouveau sélectionneur des éléphants.
Je voulais étudier votre pays, votre culture et le football. Je pense que c'est le petit Brésil d'Afrique, que vous avez une génération exceptionnelle et que maintenant on est un peu dans un trou, comme on était avec l'équipe belge qui pendant 12 ans on n'avait pas eu de tournoi et il fallait remettre des choses en place. Donc je peux m'appuyer sur une certaine expérience et aussi avec quelques personnes qui viendront m'accompagner pour faire de cette équipe de nouveau une équipe qui a envie de gagner. Et je suis entièrement d'accord avec le président. Détruire c'est facile, construire c'est plus dur. Alors si vous me demandez pourquoi je suis venu ici, je suis venu pour construire quelque chose, un projet. Et je suis certain d'une chose, il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de jeunes et j'aime lancer les jeunes.
Marc Wilmots, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Retrouvailles attendues entre Neymar et Cavani en Amérique latine.
Deux semaines après la spectaculaire remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain, deux des meilleurs attaquants du monde, Edinson Cavani et Neymar, se retrouvent à nouveau face à face ce jeudi pour un duel entre l'Uruguay et le Brésil dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. À noter que l'Uruguay jouera sans son autre attaquant vedette, Luis Suarez, ni son gardien titulaire Fernando Muslera, tous deux suspendus pour avoir accumulé trop de cartons. Enfin, Idrissa, avec vous, les résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Charlotte et Orlando 109-102, Indiana et Boston 100-109, Détroit et Chicago 95-117, Philadelphie et Oklahoma City 97-122, Atlanta et Washington 100-104, Cleveland et Denver 113-126.
Dans Washington Forum ce jeudi 23 mars, on décrypte la situation tendue dans le Kasaï, cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les violences y ont fait au moins 400 morts depuis septembre 2016 et plusieurs vidéos montrant des militaires congolais abattre des civils enveniment la situation. Dans la même province, deux experts onusiens et leurs quatre accompagnateurs congolais ont été enlevés depuis le 11 mars et on est toujours sans nouvelles. Alors que se passe-t-il réellement au Kassai? Comment Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la désignation de Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement et candidat au poste de Premier ministre de la Transition a relancé le débat sur la gestion des partis et la succession politique dans le pays. Félix Tshisekedi est le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles. On rappelle aussi que le président actuel, Joseph Kabila, a succédé à son père, Laurent Désiré Kabila, après l'assassinat de ce dernier en 2001. Eddie Sango a joint à Bruxelles le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalwira.
Le premier ministre, paix à son âme, Emery Patrice Lumumba, a été assassiné, mais nous n'avons pas vu ses enfants monter sur les chevaux pour vouloir succéder à leur père. Seuls les fils des médiocres veulent aussi succéder aux autres médiocres pour, n'est-ce pas, maintenir le pays dans la boue. Il ne suffit pas d'être fils de quelqu'un pour se prévaloir des compétences nécessaires pour gérer la société ou gérer l'État. C'est ce qui est le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous voyez comment Joseph Kabila, qui se dit être fils de Laurent Désiré Kabila, est en train d'amener la RDC à la ruine. Vous voyez qu'aujourd'hui, après la disparition du président Étienne Tshisekedi, le rassemblement est mort. L'UDPS est morte. Donc, il ne faut plus qu'au Congo, les gens puissent s'enfermer derrière les théories telles que tel fils, tel père ou tel père, tel fils. Non, c'est fini. Et nous, aujourd'hui, nous prenons que désormais, seule la compétence puisse présider à la succession, surtout quand il s'agit des choses qui engagent la nation.
Ah, mais il n'y a pas que le président Joseph Kabila qui a hérité de son père ou encore Félix Tshisekedi qui voudrait hériter de son père.
Tout d'abord, les partis auxquels XY, les enfants qui sont nés, les enfants Kamitatu, les enfants Tshisekedi, les enfants Mandon Simba, les enfants Laurent Désiré Kabila, les enfants Mobutu, les enfants Bemba Saolona. Eh bien, les partis ou les concessions auxquelles ces gens-là succèdent n'ont pas forcément été battus par ces enfants. Il y a bien les comités des fondateurs de ces partis. Et au-delà de ça, il n'est pas établi clairement que ces enfants qui détruisent les édifices battus par leurs défunts pères soient vêtus des compétences nécessaires pour gérer la société, surtout pour gérer une chose aussi importante que la République. C'est démontrer de A à Z qu'ils n'ont pas les profils nécessaires.
Mais on a un peu l'impression que c'est comme ça que marche la politique et les partis politiques au Congo.
C'est une sorte de monarchisation de la vie politique au Congo, mais une monarchisation négative, tout simplement parce que c'est vrai, ces gens-là n'ont que pour CV le nom de leur père, n'ont que pour identité le nom de leur père, mais ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucun profil, ils n'ont aucune préparation pour gérer la République. Il n'est pas mauvais en soi qu'on soit fils de ou fille de et qu'on puisse aspirer à une fonction. C'est légitime, mais il faut en avoir les compétences nécessaires.
C'était de Bruxelles, Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Dans Washington Forum, ce jeudi 23 mars, on décrypte la situation tendue dans le Kassai, cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les violences y ont fait au moins 400 morts depuis septembre 2016 et plusieurs vidéos montrant des militaires congolais abattre des civils enveniment la situation. Dans la même province, deux experts onusiens et leurs quatre accompagnateurs congolais ont été enlevés depuis le 11 mars et on est toujours sans nouvelles. Alors que se passe-t-il réellement au Kassai? Comment Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Laissez nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Bénin, le projet de révision de la Constitution se trouve déjà sur la table des députés qui doivent l'examiner vendredi. En attendant, le débat se poursuit dans les différentes couches de la société béninoise. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Il n'y a pas un seul jour qu'une voix défiler sur les médias des pros ou anti pour donner leur avis sur la révision de la Constitution du Bénin. Et depuis que le projet a été transmis à l'Assemblée nationale, le mercure est monté d'un cran. D'ailleurs, certains députés ont dit non à la demande du gouvernement qui voulait que le projet soit étudié en procédure d'urgence. Le député de l'opposition, Valentin Djanotin, après avoir lu le document, pense qu'il y a des modifications sensibles qui ont été apportées et qu'on serait en face d'un projet de création d'une nouvelle république.
Contrairement à ce qu'on avait fait croire que le président va diminuer son pouvoir, c'est le contraire. Qu'on me dit que désormais, c'est le chef de l'État qui à lui seul va ratifier les accords de prêts internationaux sans recourir à l'Assemblée nationale. Je crois que l'on ne peut pas quand même laisser à un individu futile, président de la République, cette lourde responsabilité d'engager toute une nation sur des générations par rapport à des prêts qui poursuivent des milliards. Quand on me dit, bon, avec ça là, que c'est pas une nouvelle république, tout ça là, moi je dis non.
Le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki, lors du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres, est revenu sur le sujet en ces termes.
Il est utile de préciser d'entrée que la Constitution n'a pas été réécrite. Son préambule n'a fait l'objet d'aucun amendement. Le projet de modification n'entraîne pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'induit pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Au niveau de ceux de la Convention patriotique des forces de gauche, les inquiétudes sont tout autres.
On ne peut pas faire confiance aux députés que chaque citoyen interpelle directement le député de sa circonscription. Elle lui rappelle ses devoirs. On doit exiger, continuer d'exiger que le peuple doit être au cœur, impliqué dans la révision ou dans l'élaboration de toute constitution au Bénin.
Joël Aivor est un constitutionnaliste, professeur de droit à la faculté des sciences politiques à l'Université du Bénin. Il a siégé au sein de la commission ayant travaillé sur les réformes à apporter à la constitution. Et pourtant, au lendemain de la transmission du projet à l'Assemblée nationale, il a affiché son désaccord sur certains points.
Je trouve que le Bénin, notre peuple, ne mérite pas qu'on lance un débat sur une constitution qu'il a défendue avec autant de constance face au président Boliaye. Notre peuple ne mérite pas d'être barricadé, d'être mis de côté. Dans la reformulation de ce texte, première divergence que j'ai, c'est la procédure. Vivalu, révision au pas de charge, à pas forcer, tout le monde silence, plus personne n'en parle, allez on y va, je suis pas d'accord.
Ancien ministre de la Défense du président Boniaï, Théophile Yarou, a lui aussi siégé au sein de la commission Diogbenou. Il pense que le projet tel que transmis doit être toiletté.
Aujourd'hui, si je suis à la place du chef de l'État, c'est vrai, je retirerai purement et simplement le mandat unique pour faciliter et faire avancer le pays. Parce que ça, ça pose un problème. Mais les autres, on peut encore améliorer.
Il faut dire que les magistrats, eux aussi, s'invitent déjà dans la danse et clament tout haut que la seule alternative politique crédible et légitime pour réviser la Constitution serait la recherche du consensus national. La prise en considération du projet par son adoption à la majorité des trois quarts des députés composant le Parlement, le recours au référendum. Les regards sont donc tournés vers le Parlement qui se penche sur le dossier vendredi. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Lundi, le pape François a imploré le pardon de Dieu pour les péchés et manquements de l'Église catholique et ses membres durant le génocide de 1994 au Rwanda. Le souverain pontife recevait en audience au Vatican le président rwandais Paul Kagame, ce qui a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre le Rwanda et le Saint-Siège. Eric Manirakiza a recueilli les réactions de certains auditeurs de VOA Afrique.
Athanase Karayenga.
Écoutez, je crois que c'est un moment historique parce que les relations entre l'Église catholique, le Rwanda et surtout après le génocide ont été marquées par d'énormes confusions, d'énormes malentendus. C'est une histoire tragique, c'est une histoire longue, c'est une histoire de malheur horrible. Et je crois que le geste du pape contribuera à apaiser les esprits, à et surtout à apaiser les victimes du génocide.
Médard Nawetoussi.
Bien sûr, c'est bon de demander pardon
Ce qui m'avait un peu dérangé, je disais, est-ce qu'un péché commis par une autre personne peut, le pardon peut être exaucé aussi par une autre personne?
Diara Kanyoumé.
À mon avis, je pense que la démarche du pape, vraiment, je suis très content pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il veut faire quelque chose à Dieu est universel, donc il peut accepter tout. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on va faire les mauvaises aussi. Donc si tu as fait quelque chose à Dieu, si tu as demandé pardon, lui, il va accepter, mais ne pas toujours continuer ses mauvais chemins, sinon vraiment, Dieu il va être accusé aussi. Donc c'est que M. Papa est en train de faire, c'est une bonne initiative pour le peuple rwandais. Donc à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants africains doivent savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les temps des dictatures. Donc les génocides de 1994, on n'est pas dans les temps aujourd'hui. Donc il faut que l'UNECA fasse très très attention pour diriger bien le pays. Sinon aujourd'hui, la population souffre aujourd'hui.
Aimé Kalombola.
Moi aussi, j'aimerais participer par rapport à ce que le pape avait dit, de demander pardon, parce que l'Église catholique a assisté à cette génocide rwandaise là-bas, parce que les prêtres aussi avaient tué ses fidèles. C'est pour cela que le pape a eu maintenant conscience de demander pardon. C'est ça, c'est de moi.
Et quelle est la leçon que vous tirez?
Dans la vie aussi, quand on fait une erreur, il faut se souvenir qu'il faut demander pardon. Donc la reconnaissance dedans, c'est ça la leçon qui est.
Athanase.
Le pardon que le pape demande aux victimes du génocide de Tutsi du Rwanda en 1994 est d'autant plus acceptable que la justice est passée avant.
Des propos recueillis par Eric Manirakiza au cours de notre magazine hebdomadaire Dialogue des religions.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, William Lacy Swing, est arrivé hier à Tripoli, capitale de la Libye. Ce pays est devenu, pour rappel, un point de passage favori des migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Depuis le début de l'année, plus de 19 000 personnes ont été secourues en Méditerranée. Solange Niamoulissa a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Je pense qu'il est quand même important de rappeler déjà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 19 000 migrants qui ont été secourus en mer et qui, pour la plupart, étaient partis de la Libye. C'est 30% de plus que l'année dernière. Et c'est pas nécessairement dû au fait qu'il y aurait un appel d'air, comme ça a été évoqué par beaucoup, mais c'est davantage dû aux conditions de vie qui se sont détériorées en Libye. Et c'est la raison pour laquelle notre directeur général s'est rendu en Libye, qu'il est en train de discuter avec les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur, parce que si l'on considère que les conditions de vie en Libye constituent un facteur qui augmente les flux de migration, alors la Libye fait partie de la solution. Et c'est pour ça qu'il est important, il est fondamental de pouvoir trouver une solution avec les autorités là-bas.
Vous avez les chiffres de migrants qui ont traversé depuis les débuts de cette année?
Oui, depuis le 1er janvier, il y a un peu plus de 19 000 migrants d'origine d'Afrique de l'Ouest notamment, qui ont tenté la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Ce sont un peu plus de 2 000 personnes qui ont été secourues en revanche par les gardes-côtes libyens et qui ont été ramenées sur les côtes libyennes. Donc c'est 30% de plus que l'année dernière, à la même époque.
Qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ces flux de migrants?
La question n'est pas tant d'arrêter les flux de migrants, c'est pas une crise de chiffres, encore une fois, on fait face en revanche à une véritable crise humanitaire où des centaines de personnes depuis le début de l'année sont déjà mortes en Méditerranée. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions alternatives. Avec une économie qui s'est écroulée, avec une situation politique que l'on connaît en Libye, on doit pouvoir essayer d'apporter des alternatives, comme par exemple des centres ouverts qui éviteraient des centres de détention où les conditions de vie sont déplorables pour les migrants. Actuellement en Libye. Voilà, des centres ouverts où les personnes pourraient éventuellement être présentes là-bas, mais ne seraient pas emprisonnées.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de l'épidémie de paludisme au Burundi.
Depuis le début de l'année, près de 2 millions de personnes ont été infectées et environ 700 personnes ont déjà perdu la vie selon les autorités sanitaires.
Pour nous aider à comprendre les raisons de ce désastre sanitaire, nous recevons comme invité M. Mbonerane Albert. Il est président de l'association Action de lutte contre la malaria au Burundi.
Nous écouterons le témoignage du Dr Dionys Nizigimana, directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme au ministère burundais de la Santé. Il nous dira ce qui est fait pour combattre l'épidémie.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale, c'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.